9h, bienvenue. La météo de ce mardi, ce sont des nuages qui sont présents, mais le soleil reste là et la fraîcheur aussi. On continue à ne pas dépasser les 13 degrés sur l'agglomération toulousaine, mais on reste au sec aujourd'hui. On va faire un point complet à la fin de ce journal et puis on vous accompagne aussi sur cette route qui est bien chargée pour ce mardi. Il y a notamment 40 minutes de perdu par rapport à un trajet idéal dans les deux sens de circulation périphérique intérieur et extérieur dans le secteur des ponts jumeaux. Donc restez vigilants. Restez prudent à cet endroit. Et puis le sud de Toulouse aussi, la 64, lorsque vous remontez de Muret et que vous allez à destination, soit du périphérique intérieur ou extérieur, là aussi c'est 40 minutes de perdu. Bon courage, on est avec vous. Les informations, c'est avec vous, Clémence Fuléda. Bonjour.
Bonjour Laure, bonjour tout le monde.
Le supporter marseillais accusé d'être entré dans un café de l'avenue de Muret armé de battes de fer et cagoulé a été relâché hier.
Oui, les enquêteurs n'ont visiblement rien contre lui. Il ne serait pas impliqué dans l'agression d'un client de l'établissement qui a été blessé à l'épaule dimanche matin en marge du match de foot entre le TFC et l'OM. On a rencontré cet homme qui nous raconte cette quarantaine a priori de supporters marseillais venus avec leur barre de fer. On a aussi rencontré Mambo, qui est la patronne de ce café-resto de Toulouse, qui s'appelle le Mambicas. La vitrine de son établissement a donc été brisée, le rideau de fer vandalisé. Elle a eu la peur de sa vie, elle le raconte à Pascal Daniel.
Moi j'ai vu des fumigènes, j'ai vu des barres de fer, j'ai vu des trucs métalliques, mais je ne sais pas si c'est des couteaux. Tout le monde avait quelque chose dans la main. Les gars dedans ont dit, c'est les Marseillais. Franchement, je me suis dit, mais c'est pas possible. Est-ce que vous vous êtes disputé avant? Mais non, on ne s'est pas disputé avant, donc je comprends pas. Moi, ça fait 13 ans que je suis là. Et avant, on recevait les supporters des deux camps. Maintenant, je ne reçois que le TFC. Il n'y a plus de supporters adverses. Je ne sais pas ce que c'est devenu, le sport. Le foot, j'ai pas vu ça au rugby. En rugby, il se mélange. Mais au foot, chaque supporter a son bar.
Alors, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les supporters de foot et de rugby? On a posé la question à William Snuytens, sociologue, spécialiste des supporters et des questions de violence dans le sport. Il était notre invité dans le quart d'heure toulousain à 8h moins le quart. Et oui, il y a une petite spécificité des supporters de rugbymen, nous dit-il.
À ma connaissance, il n'existe pas des mouvements qui relèvent un petit peu du style partisan ultra. Ça peut exister autour de certains clubs. Je sais par exemple qu'autour de Perpignan, ça existe. Est-ce qu'il y a des faits de violence autour des matchs de rugby de haut niveau? C'est excessivement rare. Y en a-t-il dans les basses divisions? C'est à peu près documenté. On sait que parfois il y a des rixes, des bagarres, mais qui relèvent pas de logique de groupe de supporters. Pourquoi cette différence? S'agissant du football, vous avez attaché au club professionnel des styles de partisans reconnus par les clubs ou indépendants, à l'intérieur desquels il y a les ultras et les hooligans. Ça vient de l'Angleterre, ça a plusieurs décennies, ça vient de l'Italie, ça vient d'Amérique du Sud. Une manière de supporter qui flirte et joue avec la règle et parfois qui est typiquement déviante.
Le sociologue William Snuytens, son interview est à réécouter sur l'appli ici. L'actu, ce sont aussi ces deux accidents mortels qui se sont produits en moins de 24 heures sur nos routes. Cette nuit, un peu avant 4h30, un homme de 45 ans, seul sur son scooter, est tombé sur la rocade extérieure entre les sorties Sesquières et les Minimes. Les pompiers, une dizaine présents sur place, n'ont rien pu faire. Et hier, c'est un cycliste qui a été tué à Montauban, avenue Chamier, près de la gare. Il a été renversé par un camion vers 9h du matin.
On va perdre 20 à 30% de nos récoltes dans nos vignobles.
Oui, c'est ce que nous a dit Cédric Carsenac, président de la Maison des Vins de Gaillac, qui était avec nous tout à l'heure à 8h15. Il espère des aides de l'État. La préfecture du Tarn, d'ailleurs, recense les vignerons touchés pour les activer, ces aides. La préfecture du Tarn qui annonce aussi que 10 retenues d'eau pourraient commencer à être construites dans le département d'ici un an. Dans notre région Occitanie, 150 dossiers de projets de retenue d'eau qui n'avaient pas eu de réponse ont eu ces dernières semaines un premier feu vert, Sandrine Morin.
Alors ces 150 dossiers, c'était des projets identifiés par les syndicats agricoles qui visiblement avaient du mal à être validés ou même examinés. Dans des commissions spécifiques, ils ont donc été étudiés ces dernières semaines par les départements et les préfectures. Et donc dans le Tarn, 10 de ces dossiers vont pouvoir être lancés, les agriculteurs vont pouvoir financer les analyses plus approfondies pour espérer un permis de construire et le début des travaux. Dans un an environ, le préfet du Tarn parle de petites retenues, des bassines autour de 10 000 m3 un peu partout dans le département. rendement, notamment pour les producteurs d'ail de Lautrec qui ont souffert récemment de la sécheresse. Dans le Tarn-et-Garonne, on est allé plus vite encore. 5 projets prioritaires seront autorisés avant cet été. Un volume en plus de 60 000 m3 avec des retenues allant de 3 000 m3 à 20 000. Enfin, pour le controversé dossier de Sivens, à cheval sur les deux départements, la concertation se poursuit avec des nouvelles réunions bientôt, mais pas d'examen dans le cadre de ces procédures accélérées.
Sandrine Morin, on l'apprend l'instant, à la rentrée de septembre, les bourses scolaires seront versées automatiquement à au moins 1,5 million de bénéficiaires sans qu'il n'ait à remplir le moindre formulaire. Le Premier ministre Gabriel Attal doit l'officialiser ce matin dans un déplacement à Sceaux dans les Hauts-de-Seine, selon nos confrères de France Info. La solution retenue à cette intelligence artificielle est 100% française. Elle est baptisée Albert, c'est son nom. Les agents des impôts devraient s'appuyer sur cette IA pour répondre aux questions posées en ligne par les contribuables. Ils en reçoivent, les agents des impôts, chaque année environ 16 millions. Et puis en foot, Rodez se prend à rêver de Ligue 1. Le RAF reçoit le Paris FC à 20h45 ce soir pour la 34e journée. Les Aveyronnais 5e, les Franciliens sont 4e et ils sont en lutte donc pour une place qualificative pour les barrages d'accession à la Ligue 1.